Vous écoutez RTL.
Tout de suite, on cherche l'école idéale sur RTL. Bonjour Frédéric Castagnède.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Vous êtes réalisateur de documentaires. Vous avez fait pour Arte un tour du monde des meilleures pratiques pédagogiques. Ce sera à voir dans quelques jours, 15 et 22 septembre. On fait un petit tour d'horizon. Vous avez visité combien de pays pour ce doc?
Principalement, on est allé à Singapour, en Finlande, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, beaucoup. Et puis en France aussi, dans beaucoup de régions françaises. On est allé aux quatre coins de la France et de la planète.
Parce qu'il y a de belles expériences ou expérimentations en France qu'on pourrait généraliser, c'est ça?
Absolument, il y a des choses qui marchent. L'idée, c'était d'avoir une approche non catastrophiste de l'école et d'aller voir ce qui marche ailleurs et ce qui marche en France.
Pourquoi on doit aller voir ailleurs? Ça se passe pas si bien que ça en France?
Ça se passe pas si bien que ça.
Non, bon, on va en parler.
Il y a ce classement PISA notamment.
Absolument.
C'est quoi? Vous nous rappelez ce que c'est?
C'est un classement qui est fait par l'OCDE où on est 27e sur 72, ce qui n'est pas catastrophique, mais par contre, en termes d'équité, on est un des pays où le milieu socio-économique a le plus d'impact sur les performances des élèves. Donc on est très très mauvais en équité scolaire.
Le pays le mieux classé, c'est Singapour. Mais faut-il forcément copier ce modèle asiatique? Réponse dans un instant sur RTL.
RTL, jusqu'à 15h.
Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
La curiosité est un vilain défaut.
Il va faire ses études dans la meilleure école de sorcellerie du monde et il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard, Albus Dumbledore.
Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie.
C'est la rentrée jusqu'à 15h sur RTL. On s'offre un tour du monde des écoles. On est à la recherche des bonnes idées, sans magie, parce que c'est trop facile, version Harry Potter. D'autres modèles avec le journaliste Frédéric Castagnède qui a voyagé en France et dans le monde pour cette enquête qui est bientôt diffusée sur Arte. Donc on a décidé de commencer par Singapour parce que c'est, selon le dernier classement PISA dont on parlait tout à l'heure, cette évaluation des élèves du monde entier, c'est Singapour qui est en tête. D'abord, petit cours de géographie, c'est où et c'est grand comment Singapour?
C'est tout petit, c'est une cité-état, donc c'est à peine aussi grand que la ville de New York. C'est tout au sud de la Malaisie. Singapour a été indépendant en 65 de la Malaisie, donc ils sont un peu coincés entre la Malaisie et l'Indonésie au sud-est asiatique.
Ils ont peu ou pas du tout de ressources naturelles. Est-ce que c'est une explication des moyens que l'État met dans le système scolaire à Singapour?
Oui, absolument, absolument. Ça fait partie vraiment des raisons importantes pour lesquelles ils investissent énormément dans l'éducation, parce que comme ils ont peu de ressources naturelles, ils considèrent que les ressources humaines sont vraiment la clé de leur développement. Et Singapour est passé en 50 ans de pays du tiers-monde à pays ultra-développé. Aujourd'hui, c'est la première place financière asiatique, le deuxième port après Shanghai. Enfin, c'est un pays ultra-développé, c'est un peu la Suisse de l'Asie.
Quand on dit investissement de l'État, ça veut dire quoi? Je sais pas, c'est quel pourcentage du budget?
C'est 20% du budget de l'État à peu près. Ils investissent beaucoup, notamment dans la formation. Une des clés dans tous les pays dans lesquels on est allé à travers le monde, on a vu que vraiment une des clés de la réussite, c'est la formation des enseignants, formation initiale et continue.
Ils sont formés où ces enseignants? Seulement à Singapour ou ils voyagent aussi?
Il y a un institut. Ils ont un institut qui s'appelle l'Institut National de l'Éducation, qui centralise la formation initiale et continue des profs. Mais en même temps, justement, ils envoient leurs profs à l'étranger. Ça, c'est très intéressant. Notamment, ils ont mis au point une méthode extrêmement performante pour les mathématiques, qu'on appelle la méthode de Singapour et qui est de plus en plus utilisée en France aussi. Ils ont envoyé, au début des années 80, leurs profs dans tous les pays du monde entier pour voir ce qui marche, les meilleures pratiques. Ils les ont ramenés au pays et ils ont mis au point une méthode et aujourd'hui, ils sont numéro un en maths, en sciences et en lecture.
Avec des profs qui suivent une formation continue de 100, il y a 100, plus de 100 heures de formation.
Absolument.
Par an,
ouais, centaine, ils sont très forts en formation continue. Mais
c'est beaucoup plus qu'en France.
En France, je crois que c'est 3 jours en moyenne. Eux, c'est une centaine d'heures étalées sur plusieurs jours. Donc
Alors, ils sont
forts.
Oui. Maintenant, avec vous, Frédéric Castagnède, on a envie évidemment de pousser la porte d'une école de Singapour. Ça commence à quelle heure déjà?
Très tôt.
L'école à Singapour.
Faut être lève-tôt.
Très tôt. Nous, on a suivi justement, c'est dans le cadre d'un documentaire, donc on a vraiment passé beaucoup de temps, plusieurs semaines là-bas. On a suivi les enfants depuis le réveil jusqu'au coucher. Et c'est vrai qu'on a pris le bus scolaire le matin avec les enfants. Ils se lèvent à 5h30, 6h. Ils prennent le bus à 6h15 et l'école commence à 7h30.
Et ça finit à quelle heure une journée d'école à Singapour?
Alors laquelle? Parce que le problème de Singapour, c'est qu'il y a plusieurs écoles. L'école normale finit en général vers 13h30. Mais après 13h30, il y a les cours de soutien, et ça fait partie des raisons de leur réussite.
Qui sont facultatifs ou obligatoires? Toutes les familles s'y plient.
Qui sont facultatifs. Mais en fait, au primaire, une des spécificités pour lesquelles ce modèle n'est pas forcément transposable, c'est qu'ils ont un examen extrêmement difficile en fin de primaire, et du coup, 80% des élèves du primaire suivent des cours de soutien.
Donc c'est un énorme business.
C'est un énorme business.
À Singapour.
C'est une des clés de leur réussite. C'est, je crois qu'ils ont calculé que le marché des cours de soutien a doublé au cours des 10 dernières années. C'est l'équivalent de 1 milliard de dollars, donc c'est 700 millions d'euros. C'est un gros, gros business.
Cet examen là que vous décrivez à la fin du primaire, il conditionne la suite à quel point ?
Conditionne tout, d'une certaine manière. Alors, j'exagère un petit peu, mais il conditionne l'accès aux meilleures écoles secondaires du pays. Mmh. Et les écoles secondaires du pays conditionnent l'accès aux meilleures universités du pays ou à l'étranger. Donc, d'une certaine manière, tout se joue avant l'âge de 12 ans. C'est pour ça qu'il y a une énorme pression sur les élèves et sur leurs parents aussi, qui veulent que leurs enfants réussissent.
Singapour numéro 1 au classement mondial des élèves, mais à quel prix ? Écoutez ce qu'en dit le vice-doyen d'une université de Singapour.
Je dirais cependant qu'un système ultra compétitif, comme est souvent décrit le système singapourien, a créé le sentiment qu'il faut absolument réussir dans une société qui devient impitoyable.
Ça signifie quoi ? Donc c'est un prof, enfin un responsable d'université de Singapour qui dit ça. Ils sont bien conscients de cette pression mise sur les élèves. Comment on la perçoit ? Comment on la ressent ? Il y a, je ne sais pas, des taux de suicide, des chiffres qui peuvent étayer cette idée ?
C'est l'envers du décor. C'est pour ça que ça a été, à ma grande surprise, ça a été très difficile de filmer là-bas dans une école. Je pensais que comme ils étaient numéro 1 de cette enquête au CDE, ils allaient nous ouvrir leurs portes. Alors qu'au contraire, toutes les portes se sont fermées parce qu'ils ont parfaitement conscience que l'envers du décor, c'est le stress qui pèse sur les enfants. Et on a notamment rencontré une ONG qui s'appelle Samaritans of Singapore, SOS, qui s'occupe des enfants en stress scolaire. Et en 2015, ils avaient constaté qu'il y avait une augmentation du taux de suicide de 50%. Alors les chiffres, de manière absolue, ne sont pas énormes. Je crois qu'en 2015, c'était 27 suicides d'enfants par an. Mais à l'échelle d'une toute petite île comme Singapour, où il y a 5,5 millions d'habitants, c'est colossal. C'est en moyenne 2 suicides par mois. Et surtout, c'est des milliers d'appels téléphoniques. Je crois qu'ils reçoivent 3000 appels téléphoniques.
Mais il y a une prise de conscience nationale quand même de ce stress. Ou alors justement, ça donne naissance à un nouveau business qui sont les psys et les centres d'antistress. Et là, on ne s'en sort plus. Et on sacrifie des enfants.
Il y a une prise de conscience. Ils ont notamment enclenché une réforme du système de notation de ce fameux examen, le PSLE de fin de primaire. Alors, ils vont introduire en 2021 une notation un petit peu moins stricte. Ils vont remplacer les chiffres par des lettres. Donc, ça va être une notation un peu plus large, un peu plus souple, un peu moins stressante. Mais enfin bon.
Et le rouge par le bleu, c'est ça,
ouais,
pour corriger.
Bon, on va se rapprocher d'un autre système scolaire, plus proche en tout cas géographiquement de nous, la Finlande. Vous y êtes allé également pour ce doc sur Arte. Et il y a un livre, Demain l'école, qui est publié aux éditions François Bourin. On pourrait dire que c'est un peu l'anti-Singapour en étant schématique. Et pourtant, là aussi, les élèves ont de très bons résultats. Récit à venir sur RTL.
Monsieur Franck Bardu, professeur d'éducation physique, a décidé de prendre en attendant la place du professeur de philosophie, toujours vacante.
RTL.
Qu'est-ce que vous étudiez là dernièrement
Épicure et la luxure.
Épicure et la luxure.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bah écoutez, pour la luxure, un simple bandage suffit. Hein, y a pas besoin de.
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà, d'autres questions ?
Quand les inconnus s'amusent avec les enseignants, heureusement qu'ils ne s'amusent pas à changer comme ça de poste.
Non, mais avec la caricature du prof de sport quand même.
C'est clair.
Pour ceux qui nous écoutent, évidemment.
Nous, on pose une question un peu sérieuse aujourd'hui. Où sont les meilleures écoles du monde ? Est-ce qu'on peut s'en inspirer ? C'est notre curiosité du jour jusqu'à 15h sur RTL. Et pour y répondre, le réalisateur de documentaire Frédéric Castagnette, qui a enquêté, notamment en Finlande. Nous, notre émission s'appelle La Curiosité. Est-ce que c'est une valeur, une porte d'entrée intéressante pour l'enseignement, pour aider les enfants à apprendre ?
Absolument. Une des grosses parties du film et du livre, ça a été sur toutes les découvertes des sciences du cerveau, comment le cerveau apprend. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que c'est l'outil de travail des élèves et des enseignants. Et on fait, depuis une vingtaine d'années, il y a énormément de découvertes sur comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau apprend. Et les chercheurs découvrent que la curiosité, c'est un des principaux moteurs de l'apprentissage parce que ça déclenche des pics de dopamine, l'hormone du plaisir dans le cerveau. Et ça active, alors c'est un peu compliqué, mais il y a ce qu'ils appellent le circuit de la récompense dans le cerveau. Quand le cerveau a une récompense, il interprète qu'il faut continuer. Et donc, en fait, la curiosité, c'est vraiment ce qui pousse les enfants à apprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de programmes scolaires autour des pédagogies actives, vouloir faire des enfants des petits chercheurs, qui placent justement la curiosité au centre de l'apprentissage, parce qu'ils constatent que dès que l'enfant est investi dans ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il apprend et c'est comme ça qu'il retient. Parce que la curiosité, justement, ça active ce circuit de la récompense qui joue sur ce qu'ils appellent l'hippocampe, qui est une petite structure du cerveau qui a un rôle moteur dans la mémorisation à long terme. Donc être curieux, ça permet de mémoriser les apprentissages.
Ben voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Vous nous rappelez comment on le traduit en anglais ? C'est assez drôle.
C'est très drôle, c'est très drôle. En anglais, ils disent « Curiosity killed the cat », la curiosité a tué le chat. Donc moi, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'on voit l'image du chat un peu trop curieux qui s'avance, ouais. Je sais pas, dans le frigo ou dans le vide. Et...
Il ne faut pas hésiter à nous podcaster, à nous écouter sur rtl.fr et à nous faire écouter et découvrir à vos enfants.
Ben oui.
Dès quoi ? 8-9 ans ?
Mais oui, hier, on parlait de la préhistoire, la vie quotidienne dans ce qui allait devenir la France à l'époque préhistorique, et ça passionne les gamins, ça je peux vous le garantir. Ça veut dire qu'il faut apprendre à apprendre.
Exactement, c'est la clé.
Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer.
Exactement.
Aussi en France.
C'est la clé, et surtout pour demain, parce que là, le film, c'est demain l'école, c'est pas l'école du futur, c'est pas un film d'anticipation, c'est vraiment comment améliorer l'école pour demain. Et à l'heure de Google, d'Internet, où le savoir, en fait, est à portée de clic, on n'a plus besoin de déverser des sommes colossales de savoir dans la tête des enfants. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre à apprendre. Et c'est vraiment la clé, et apprendre tout au long de la vie.
Parce et que à ça... utiliser ce qui s'est donné, quoi.
Exactement. Exactement. C'est comment faire mieux que les machines, en fait. Parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, etc., demain, les enfants vont être en compétition avec les machines. Donc, il faut leur apprendre des compétences, des qualités que les machines n'ont pas, comme la curiosité, comme la créativité. Voilà, c'est la clé pour demain.
Tiens, l'intelligence artificielle, on en parlait hier dans l'émission avec Martial Liu. Vous pouvez la réécouter ou la podcaster. C'était aussi un très bon moment de radio.
Apprendre à apprendre, est-ce que c'est ce que sait faire la Finlande en termes d'éducation et d'enseignement ?
Ils donnent des cours, d'ailleurs, d'apprendre à apprendre. Ils apprennent aux enfants quelles sont les meilleures techniques pour apprendre. Et c'est vrai que c'est un système qui est radicalement différent du système asiatique et du système de Singapour, mais ils ont aussi d'excellents résultats. Ils ont été numéro 1 de l'enquête PISA pendant très longtemps. Aujourd'hui, ils sont numéro 5. Et ils ont des rythmes scolaires très différents.
C'est comment une journée d'un petit élève finlandais ?
C'est radicalement différent. Par exemple, ne serait-ce que les devoirs. Voilà, par jour, ils ont entre 10 et 20 minutes de devoirs le soir, pour deux raisons. D'une part, pour ne pas pénaliser ceux qui ne peuvent pas être aidés par leurs parents à la maison. Donc, il y a une volonté d'équité scolaire. Ça, c'est très important. Et d'autre part, pour ne pas empiéter sur leur sommeil. Parce que le sommeil joue un rôle clé dans les apprentissages. Pas seulement pour se reposer, mais les chercheurs en sciences du cerveau justement observent que pendant le sommeil, en fait, l'enfant se rejoue tous les apprentissages de la journée en accéléré, que le cerveau répète à l'échelle d'une vitesse de 10 fois tout ce qu'il a appris dans la journée, et ensuite il trie ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Donc le sommeil est vraiment clé, et avoir moins de devoirs le soir, ça permet de mieux dormir, ça permet de mieux apprendre.
Vous pouvez nous décrire cette école finlandaise ultramoderne que vous avez visitée pour le documentaire qui sera bientôt diffusé sur Arte ?
C'est un peu une école idéale, mais c'est un peu un prototype d'école de demain, ne serait-ce qu'architecturalement, ça ressemble plus à un musée d'art moderne qu'à une école classique, elle est magnifique. Avec
la
des
cour
normes,
de récré, par exemple, c'est important ce moment de la récré.
C'est fantastique, il y a des portiques, il y a des balançoires, on voit des enfants complètement épanouis, qui font des jeunes filles qui font des saltos arrière.
Il n'y a pas de grille.
C'est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, la directrice de l'école avait une conception tout à fait novatrice de la pédagogie, et elle a demandé aux architectes de construire son école idéale, en fait. Donc l'école a été construite autour des principes pédagogiques que voulait mettre en place la directrice, et cette cour d'école, elle est ouverte sur le quartier, et en fait ils l'ont construit comme une espèce de place publique, donc tout le monde peut venir dans la cour de récréation, et en fait l'école est ouverte aux gens du quartier, et même la bibliothèque, les riverains peuvent venir emprunter des livres à la bibliothèque, elle est complètement intégrée dans le quartier.
Avec cette idée aussi en Finlande qu'il faut faire avec les mains pour apprendre, c'est ce qu'on trouve un peu chez Maria Montessori aussi, c'est quoi ce faire avec les mains.
Exactement, mais ça fait partie du programme national. C'est pas uniquement dans cette école, du coup. Ils ont des cours de cuisine, ils ont des cours de couture, de menuiserie. Voilà. Et ça part aussi de certaines recherches scientifiques très, très sérieuses qui constatent que quand on mélange les apprentissages traditionnels, comme les maths ou l'histoire ou quoi que ce soit, avec des activités manuelles, par exemple en histoire, voilà, il y a un cours d'histoire, et puis après on crée une pièce de théâtre, on fabrique des costumes à l'atelier couture.
On retient mieux à ce moment-là.
On retient mieux. C'est ce que les enfants retiennent 10, 20 ans, 30 ans après. Et vous, je ne sais pas, souvenez-vous de vos classes quand vous étiez à l'école. Ce dont on se souvient 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, c'est les choses saillantes, et notamment ça, voilà, quand on mélange les apprentissages traditionnels et manuels, ça reste ancré dans le cerveau.
En étant un peu pompeux, ça s'appelle l'expérientiel. Et tiens, ça me fait penser à un prof de maths qui fait des cours de maths en rappant. Il crée des raps
C'est pour ça que vous êtes aussi bon en rap.
Vous allez vous moquer de moi, c'est, j'en étais sûr. Je voyais à votre regard, vous allez vous moquer de moi.
Non, parce que vous rappez super bien.
Non, je rappe comme une nulle, mais en revanche, lui, il réussit à faire apprendre les théorèmes en rappant à ses élèves.
Voilà une bonne idée. Tiens, et les notes, est-ce qu'il faut forcément noter les élèves? Et si oui, à partir de quel âge et comment? Réponse dans un instant. En Finlande et en Californie, l'école nous inspire sur RTL.
Un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester, je travaillais dans les écoles maternelles.
RTL.
Ah, youpi joie.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Moi, je me rappelle par exemple de cette journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures. Hein, vraiment, l'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Mais pourquoi tu ne laisses pas rentrer?
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà, l'école mène à tout à condition d'en sortir. En général, on dit ça pour le journalisme, mais là, c'est valable pour Elodie Pou, ancienne professeure des écoles, qui est devenue humoriste. On vient d'entendre l'extrait de ses sketchs. On est toujours avec le journaliste Frédéric, réalisateur de documentaire Frédéric Castagnède, pour un livre et un docu qui va être diffusé 15 et 22 septembre sur Arte. Demain, l'école, le livre est publié aux éditions François Bourin. Donc, les expériences que vous avez glanées en France et à l'étranger pour qu'on s'en inspire finalement et pour les transposer dans le plus d'établissements possible. Tiens, si vous deviez proposer là une idée simple et facilement transposable, ce serait laquelle ?
Moi, une idée que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est le concept de la classe inversée qui est de plus en plus utilisée en France, qui est née aux États-Unis et qui est utilisée aujourd'hui par près de 20 000 enseignants dans leur classe, qui consiste à inverser ce qui se passe en classe et à la maison. Et de plus en plus, on a filmé par exemple à Drancy un prof de mathématiques qui pratique qui utilise cet outil pour certains concepts de maths, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le cours magistral en classe et de faire les exercices à la maison, parfois les enfants à la maison, ils peuvent pas être aidés, ils ont des difficultés à faire l'exercice, etc. Ils reviennent le lendemain, ou alors ils osent pas revenir le lendemain, ils se disent j'ai honte, j'ai pas réussi à le faire, je viens pas. Là, ils créent des capsules vidéo, et c'est une utilisation intelligente, je trouve, du numérique. Ils créent des petites capsules vidéo en faisant son cours d'une minute, deux minutes. Il dit aux enfants regardez-le à la maison, et ensuite l'exercice on le fait ensemble en classe.
C'est ça. Donc c'est inversé parce que tu apprends le cours chez toi,
exactement,
et tu viens l'appliquer en
exactement.
Classe.
Ouais. Et en plus, du coup, le prof est là au moment où l'enfant en a le plus besoin, au moment de l'exercice. Donc il regarde à son rythme la capsule vidéo, il peut faire marche arrière, etc., la regarder plusieurs fois. Ils inversent ce qui se passe, voilà, le cours à la maison et les exercices en classe. Et ce prof qu'on a filmé, Nicolas Lemoine, à Drancy, constatait très concrètement qu'il y a un recul, grâce à ça, du décrochage scolaire, que les enfants décrochent moins, et c'est quand même un des enjeux majeurs pour le collège aujourd'hui. Il y a plus de 100 000 enfants qui quittent le système sans diplôme aujourd'hui. Lutter contre le décrochage scolaire, c'est un des grands enjeux du collège.
Il y a une autre question qu'on se pose beaucoup et qui est souvent polémique, ce sont les notes. Alors, on était en Finlande il y a quelques instants, c'est l'un des pays dont les élèves cartonnent dans les tests internationaux. Est-ce qu'ils sont notés, ces enfants finlandais ?
Il n'y a pas de notes avant l'âge de 12 ans en Finlande. Avant, il y a des évaluations, il y a des auto-évaluations, mais ils partent du principe que c'est toxique, que ça stresse les enfants et que ça ne sert à rien quand ils sont petits, au primaire, de classer les enfants les uns par rapport aux autres.
Donc, on leur dit quoi ? Il
y a des évaluations, il y a des systèmes. Même les enfants s'auto-évaluent, c'est drôle, ouais. Dans les classes, il y a des espèces de tableaux avec des couleurs où c'est très bien, bien passable, peut mieux faire, etc. Et c'est les enfants qui eux-mêmes s'évaluent en fonction de ce qu'ils ont fait dans la classe. En général, ils se mettent tous au milieu, ils se mettent tous passables, voilà. Mais du coup, ils n'ont pas de stress, il n'y a pas de compétition entre les enfants et ça ne sert à rien d'introduire ce genre de choses aux primaires. Et ce qui est drôle, c'est que les recherches en sciences cognitives confirment que c'est toxique de créer ce système d'évaluation et de comparaison quand ils sont petits. Après, pour les classes supérieures, on en a besoin. Mais en Finlande, il n'y en a pas avant l'âge de 12 ans.
Frédéric Castagnède, vous êtes aussi allé aux États-Unis, en Californie. On est un peu sur la même logique, pas de notes trop tôt dans le système scolaire. Vous avez visité plusieurs écoles très différentes.
Ouais. En Californie, il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de tests. La différence en Californie, c'est qu'il y a toutes ces start-up du numérique ou ces géants du numérique qui réfléchissent beaucoup à l'école de demain, et un des grands enjeux pour l'école de demain, c'est développer la créativité et aussi développer la personnalisation de l'enseignement. Et donc essayer d'avoir une école plus personnalisée, moins massive. On a encore des écoles un peu héritées du 19e siècle, où avec des rangées de tables devant l'enseignant, comme il y avait des rangées d'ouvriers devant le contremaître. De plus en plus, il faut personnaliser l'enseignement, et l'enjeu, c'est de dire que chaque enfant est différent, et essayer de créer l'étincelle qui n'est pas la même pour vous, pour moi, pour tout le monde. Quoi. Démassifier l'enseignement.
La géographie, la topographie de la salle de classe, c'est aussi un enjeu. Créer par exemple des îlots plutôt qu'effectivement ces rangées de bancs face aux profs. Merci beaucoup Frédéric Castagnier de votre livre « Demain, l'école tour du monde des meilleures pratiques pédagogiques » est donc publié aux éditions François Bourin et Arte Éditions, puisqu'il y a ce documentaire en deux parties diffusé les 15 et 22 septembre prochains. Merci.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.